La Rose des Vents se tourne ce soir sur l'Ukraine, enfin l'Ukraine mais depuis Lausanne. C'est l'occasion de traiter ce soir le dernier volet sur l'ACRU, l'association culturelle romandie Ukraine. Un volet consacré aux enjeux des droits humains en Ukraine au 19e siècle et aujourd'hui. Et pour en parler ce soir, Daniel, à mes côtés, Mike Hoffman, membre fondateur de Vivere, fondé à Lausanne en 1999. Un mouvement solidaire de lutte en faveur des droits humains. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus sur Radio Django. Et également une femme avec nous, Musa Schubart, interprète et professeure de langue slave retraitée, membre de l'ACRU. Musa, vous nous ferez découvrir ce soir le parcours d'un poète engagé du 19e siècle, Taras Shevchenko. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout de suite, peut-être la première question. Qui est Taras, ce poète né le 9 mars 1814 sous l'Empire russe, dans une famille de paysans serfs ?
Qui est pour nous, Taras Shevchenko ?
Bah oui. Absolument, pour les Ukrainiens.
Cet poète est devenu vraiment symbole pour la lutte pour l'indépendance, pour la liberté de l'Ukraine et pour la libération de servages qui existaient à l'Ukraine dans le 19e, 18e et 19e siècle. Shevchenko vient d'une famille de serfs. Il était cette famille plus pauvre dans le village, mais il avait le grand-père qui était encore cosaque de Zaporozhye, qui lui a raconté des périodes de lutte pour la liberté, et qui a raconté aussi la période de la liberté. C'est pourquoi Shevchenko était déjà éduqué par les ancêtres à l'esprit de liberté. Et il était devenu orphelin très, très jeune et toute la famille était dispersée dans le village et lui, il est devenu serviteur de propriété de ce village. Et qu'est-ce que c'est être serf à l'Ukraine dans ce siècle? C'est-à-dire que le propriétaire pouvait vendre les paysans, il pouvait envoyer, mais ils ne pouvaient pas, les serfs ne pouvaient pas voyager ou être libres pour les occupations pour soi-même. Cette propriétaire a pris Shevchenko pour Saint-Pétersbourg une fois. Et à Saint-Pétersbourg, les Ukrainiens qui étaient là, les personnalités ukrainiennes, russes, ont remarqué que ce garçon était très doué dans la peinture et dans l'écriture. On a décidé de donner à ce garçon la liberté. Et qu'est-ce que c'est donner la liberté? C'est-à-dire, on a parlé avec le propriétaire, on a proposé, on a dit, si vous faites ce pas, ce serait vraiment très noble même, oui, mm-hmm. parce que c'est un talent. Mais le propriétaire ne voulait pas. Pour lui, Shevchenko était le serf. On vend seulement. Et on a vendu Shevchenko, mais on avait fait une action avec un grand tableau de Brulov. Mm-hmm. Brulov, on a gagné 2 000 et on a donné à monsieur propriétaire cet argent. Shevchenko est devenu libre. Encore une remarque. En Ukraine de cette période, les serfs, on pouvait vendre les serfs pour 2 000 roubles, les hommes, et pour moitié de prix, les femmes.
2 000 roubles, ça vaut combien actuellement?
Ça, je ne sais pas, je pense.
Mais c'était la moitié prix.
Non, c'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup pour le propriétaire, ouais. Bien sûr.
Oui. Mais pour revenir au parcours de Shevchenkov, en fait, il quitte l'Ukraine pour Saint-Pétersbourg pour faire donc ses études dans le domaine artistique. Il ne revient en fait en Ukraine qu'à 29 ans. C'est un choc. Il est scandalisé par l'oppression tsariste et il s'imagine en fait que son Ukraine natale est en voie de perdition. À cette période-là, il s'engage dans un mouvement politique. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Musa, quelle était en fait cette méthode et cette confrérie de Cyril, une organisation politique qui luttait donc contre le servage et l'égalité et qui voulait justement, qui prenait l'égalité sociale?
C'est une question tellement intéressante parce que, bien sûr, cette organisation était secrète, oui, parce qu'on a parlé vraiment de la libération des sauvages, on a parlé de la libération de l'Ukraine, de l'Empire russe. Et ça, c'était un grand danger pour l'Empire russe. Et Chevtchenko était une porte-parole de cette organisation parce qu'il a écrit la poésie. Et quand il a vu, bien sûr, qu'elle a visité l'Ukraine après Saint-Pétersbourg, il a remarqué que la situation à l'Ukraine est terrible. Il a écrit quelques poèmes qui montrent ça. C'est pourquoi Chevtchenko était aussi arrêté. Oui.
Et c'est le contexte politique, en fait, absolument, qui explique cette arrestation.
Absolument.
Mais racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté le 5 avril 1847. Sa vie bascule.
Il était arrêté, il était dans la prison d'abord à Saint-Pétersbourg, oui. Et après, il était envoyé pour faire service militaire à Kazakhstan. Mais c'était aussi la prison, parce qu'il était là-bas avec interdiction de écrire les vers et aussi faire les peintures. Oui. Mais il était tellement talentueux que le talent était remarqué même là-bas. Et les surveillances l'ont demandé de faire les portraits, disons. Et
les il faisait les portraits des gardes, donc.
Oui, oui, oui. Il a fait ça et puis il a fait une partie des dessins de la vie à Kazakhstan. Oui, nous avons toute l'histoire de Kazakhstan dans ces dessins. Parce qu'il a travaillé là-bas avec crayon et papier. On n'a pas donné les teintures.
Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il était en exil? On lui a interdit d'écrire et de peindre.
Il a écrit beaucoup. Il a caché sa poésie qu'il a écrite dans le bot. Oui, le petit. Il a fait le petit carnet avec illustration. Il a écrit les vers et puis il a caché ça. Et après son libération, les amis ont édité ce cahier.
Ce qu'on appelle le Kozba, c'est le fameux Kozba.
Non, Kobzar, c'est oui.
Kobzar,
c'est vraiment le livre de la poésie de Chevtchenko.
Et libéré de son exil militaire en 1857, il meurt en 1861, date de l'abolition du servage en Russie. Après 200 ans, ce poète est resté une icône de la culture de l'Ukraine et de la diaspora ukrainienne. Je crois que vous avez un petit texte dont vous aimeriez nous lire un extrait.
Je voudrais lire un petit extrait pour vous montrer quel rôle il joue aussi pour aujourd'hui, c'est-à-dire la jeunesse de Maïdan. Et tout le monde qui voudrait avoir la liberté, et ils ont lu cette parole. Je vous lis. C'est-à-dire, il a écrit le testament avant son mort. Et ce testament, c'est-à-dire beaucoup de monde écrit le testament, mais c'est toujours égocentrique. Lui, il parle à nous, à tout le monde. Il a dit... Je quittais ce monde, champs et collines, volerai au royaume de Dieu pour prier. Mais en attendant, je ne connais pas Dieu. Enterrez-moi et dressez-vous, brisez les fers maudits, arrosez votre liberté du sang de l'ennemi. C'est très fort, bien sûr, et il vit cette force de Chevtchenko vit. Jusqu'à maintenant.
Jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Mike, vous allez régulièrement en Ukraine pour le compte de Vivere. On vient de découvrir le parcours donc, de ce poète très engagé. Et en quoi son combat serait-il d'actualité aujourd'hui?
Chevtchenko nous manque aujourd'hui parce que dans notre expérience, des victimes ukrainiennes du trafic des êtres humains se vendent pour non pas 2000 roubles, mais 2000 dollars. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui.
C'est la
réalité d'aujourd'hui.
Et comment s'implique Vivere sur le terrain pour lutter contre ce fléau, en sachant que la Russie a été marquée par une longue période d'esclavage du XVIe au XVIIe, suivie du servage? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre le trafic d'êtres humains?
Alors, le trafic d'êtres humains représente un réseau criminel, donc qui a une influence à peu près partout sur la planète. Ça, c'est clair. Il n'y a pas que le peuple ukrainien qui est menacé ou qui est victime, mais plusieurs pays de l'ancien bloc soviétique qui ont des difficultés économiques. Donc, on dit que ce sont des pays d'origine, c'est-à-dire ce sont des pays où les gens cherchent à migrer à tout prix, voilà, pour gagner leur vie. Et dans cette recherche désespérée, disons, de trouver un travail simplement correct et avec une rémunération, plusieurs d'entre eux vont être pris dans les mailles, disons, du filet criminel qui va les duper sur la destination, sur l'emploi qu'ils auront et qui vont connaître, parfois même en Ukraine, dans le pays même, en Russie ou dans d'autres pays, y compris outre-mer, une situation de servage, d'esclavage.
Donc finalement, le combat pour l'égalité sociale que menait Taras et qu'on peut mener aujourd'hui est vain. Mais en quoi, en fait, ce poète, finalement, a-t-il un combat similaire à celui de Femen? Et on pourrait se demander qui est le nouveau Taras Tchetchenkov.
Bien sûr, Femen joue un grand rôle dans notre histoire d'aujourd'hui, mais aussi les jeunes poètes d'aujourd'hui jouent un grand rôle. À l'Ukraine, maintenant, vit une poétesse qui s'appelle Anastasia Dmytruk, qui a vécu... D'abord, elle a 22 ans, elle a vécu Maïdan, elle a vécu aussi mort de ses amis sur Maïdan. Il a écrit la poésie très, très forte contre ce pouvoir qui a dérangé, gagné la liberté en l'Ukraine. Oui. Et puis, bien sûr, il écrit aussi beaucoup de poésies sur amour et aussi sur le front. C'est-à-dire, il aide aux soldats et aussi à nous survivre ici, parce qu'on est très triste quand on lit les nouvelles. C'est pourquoi il était ici invité et il est vraiment une des phares, on peut dire, d'aujourd'hui.
Donc le prochain événement qui sera organisé par la CRU, l'association dont vous faites partie, parlera peut-être de cette jeune poétesse.
Oui, oui,
mais vous pensez l'inviter prochainement?
Oui, elle était déjà ici, mais on fait ça encore une fois parce qu'elle est vraiment bien et j'espère vous l'inviter pour parler à la radio.
Pour découvrir en fait ce nouveau combat. Oui.
On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Mike Hoffman, membre de la Fondation Vivere. Merci d'être venu nous dire quelques mots ce soir sur les ongles de Radio Django. Et merci à Moussa Schubart, professeur de langue slave retraité. Merci à vous deux pour ce regard croisé sur les droits de l'homme hier et aujourd'hui. Et on profite pour remercier la CRU qui nous a fait découvrir tout ce mois d'avril différentes facettes de l'Ukraine. Et pour clore cette série, un petit morceau de musique choisi par la CRU pour rendre hommage à Taras Shevchenko, Subotiv du groupe Komu Finis.